Chapitre 39. Parabole du semeur. Jésus me dit, en me montrant le cours du Jourdain, ou plutôt l'endroit où il débouche dans le lac de Tibériade, là où s'étend la cité de Bethsaïda, sur la rive droite du fleuve par rapport à celui qui regarde le nord, « Maintenant, la ville ne semble plus être sur les rives du lac, mais un peu vers l'intérieur dans les terres, et cela déconcerte les spécialistes. » On doit chercher l'explication dans le fait que de ce côté, le lac a été comblé par 20 siècles d'alluvions apportées par le fleuve et par les éboulis descendus des collines de Bethsaïda. La ville était alors exactement à l'embouchure du fleuve dans le lac et même les barques les plus petites, aux saisons où les eaux du fleuve étaient plus hautes, remontaient sur un assez long parcours jusqu'à la hauteur de Chorosaïn, le fleuve lui-même, qui servait cependant toujours de port et d'abri aux barques de Bethsaïda au jour de tempête sur le lac. Ceci n'est pas pour toi, à qui la chose importe peu, mais pour les docteurs difficiles. Et maintenant, va de l'avant. Les barques des apôtres, après avoir parcouru la portion assez courte du lac qui sépare Capharnaüm de Bethsaïda, amarrent dans cette ville. Mais d'autres barques les ont suivies et beaucoup de gens en descendent et s'unissent à ceux venus de Bethsaïda pour saluer le maître qui entre dans la maison de Pierre où se trouve de nouveau son épouse qui a préféré vivre seule plutôt que d'entendre les plaintes constantes de sa mère envers son mari. Les gens au dehors réclament à grands cris le maître. Cela ennuie Pierre qui monte sur la terrasse et harangue ses concitoyens ou du moins leur dit qu'il faudrait un peu de respect et de politesse. Lui, maintenant qu'il l'a dans sa maison, voudrait bien jouir un peu paisiblement de la présence du maître. Au contraire, il n'a pas le temps et le plaisir de lui offrir seulement un peu d'hydromel parmi les nombreuses choses qu'il a dit à sa femme d'apporter, et il grommelle quelque peu. Jésus le regarde en souriant et hoche la tête en disant « On dirait que tu ne me vois jamais et qu'il est exceptionnel de se trouver ensemble. Mais il en est ainsi. Quand nous sommes par le monde, sommes-nous par hasard, toi et moi? Jamais de la vie. Entre toi et moi, il y a le monde avec ses malades, avec ceux qui sont dans l'affliction, avec les auditeurs, les curieux, les calomniateurs, les ennemis. Mais nous ne sommes jamais toi et moi. » Aujourd'hui, au contraire, tu es avec moi dans ma maison, et il devrait le comprendre. » Pierre est vraiment fâché. « Mais je ne vois pas de différence, Simon. Mon amour est le même, ma parole est la même. Que je te la dise à toi en privé, ou que je la dise pour tous, n'est-ce pas la même chose ?» Pierre avoue alors sa grande peine. « C'est que je suis têtu, et que je suis facilement distrait. Quand tu parles sur une place, sur une montagne, au milieu d'une si grande foule, moi, je ne sais pourquoi, je comprends tout, mais je ne me rappelle de rien. Je l'ai dit aussi aux compagnons, et ils m'ont donné raison. Les autres, je veux dire le peuple qui t'écoute, te comprend et se souvient de ce que tu dis. Combien de fois nous avons entendu quelqu'un avouer « Je n'ai plus fait cette chose parce que tu l'as dit » ou encore « Je suis venu parce qu'une fois je t'ai entendu dire telle autre chose dont mon esprit a été frappé. » Nous, au contraire, c'est comme un courant d'eau qui passe sans s'arrêter. La rive ne l'a plus cette eau qui est passée. Il en vient d'autres, et toujours tant. Mais elle passe. Et moi je pense avec terreur que s'il en est comme tu dis que viendra le moment que tu ne seras plus là pour jouer le rôle du fleuve, et moi, qu'aurais-je à donner à ceux qui ont soif si je ne garde pas une seule goutte de ce que tu me donnes ?» Les autres aussi appuient les plaintes de Pierre, se lamentant de ne jamais rien retrouver de ce qu'ils entendent quand ils voudraient le retrouver, pour répondre aux nombreuses personnes qui les interrogent. Jésus sourit et répond. « Mais il ne me semble pas. Les gens sont très contents de vous aussi. »« Oh oui, pour ce que nous faisons.
te faire de la place, et pour cela jouer des coudes, porter les malades, recueillir les oboles et dire « Oui, le maître, c'est celui-ci ». C'est du propre en vérité.
Ne te rabaisse pas trop, Simon.
Je ne me rabaisse pas, je me connais.
C'est la plus difficile des sagesses, mais je veux t'enlever cette grande peur. Quand j'ai parlé et que vous n'avez pu tout comprendre et retenir, demandez-moi sans craindre de paraître ennuyeux ou de me décourager. Nous avons toujours des heures d'intimité. Ouvrez-moi alors votre cœur. Je donne tant à tant de gens. Et que ne vous donnerais-je pas à vous que j'aime comme Dieu ne le pourrait davantage? Tu as parlé du courant qui passe sans que la rive n'en garde rien. Un jour viendra où tu t'apercevras que chaque flot t'a déposé une semence et que chaque semence t'a donné une plante. Tu trouveras à ta portée fleurs et plantes pour tous les cas, et tu seras étonné de toi-même en disant « Mais que m'a fait le Seigneur ?» Car alors tu seras racheté de l'esclavage du péché, et tes vertus actuelles se seront élevées à une haute perfection. Tu le dis, Seigneur, et je me repose sur cette parole. Maintenant, allons trouver ceux qui nous attendent. Venez. Paix à toi, femme, je serai ton hôte ce soir. Ils sortent, et Jésus se dirige vers le lac pour n'être pas bousculé par la foule. Pierre a soin d'éloigner la barque de quelques mètres de la rive de façon que tous puissent entendre la voix de Jésus, mais qu'il y ait peu d'espace entre lui et les auditeurs. De Capharnaüm jusqu'ici, j'ai réfléchi à ce que j'allais vous dire et j'ai trouvé des indications dans les événements de la matinée. Vous avez vu venir vers moi trois hommes, l'un spontanément, l'autre parce que je le sollicitais, le troisième pris par un enthousiasme soudain. Et vous avez vu aussi que des trois, je n'en ai pris que deux. Pourquoi? Est-ce que par hasard j'ai vu un traître dans le troisième? Non, en vérité. Mais il n'était pas préparé. Apparemment, paraissait moins préparé celui qui est à côté de moi, qui allait ensevelir son père. Au contraire, le moins préparé, c'était le troisième. Le second était si préparé à son insu qu'il a su accomplir un sacrifice vraiment héroïque. L'héroïsme pour suivre Dieu est toujours la preuve d'une forte préparation spirituelle. Cela explique certains faits surprenants survenus autour de moi. Les plus préparés à recevoir le Christ, quelle que soit leur caste et leur culture, viennent à moi avec une promptitude et une foi absolue. Les moins préparés m'observent comme un homme qui sort de l'ordinaire, ou bien ils m'étudient avec méfiance et curiosité, ou bien encore ils m'attaquent et me dénigrent par des accusations variées. Les différents comportements sont en proportion de l'impréparation des esprits. Dans le peuple élu, on devrait trouver partout des esprits prompts à recevoir ce Messie dans l'attente duquel les patriarches et les prophètes se sont consumés d'angoisse. Ce Messie, venu finalement précédé et accompagné de tous les signes annoncés par les prophètes. Ce Messie, dont la physionomie spirituelle se dessine toujours plus claire à travers les miracles visibles sur les corps et sur les éléments, et à travers les miracles invisibles sur les consciences qui se convertissent et sur les gentils qui se tournent vers le vrai Dieu. Mais il n'en est pas ainsi. Au contraire, la promptitude à suivre le Messie est fortement contrée, justement chez les enfants de ce peuple. Et chose douloureuse à dire, elle l'est d'autant plus qu'on s'élève dans les classes de sa société. Je ne le dis pas pour vous scandaliser, mais pour vous amener à prier et à réfléchir. Pourquoi cela arrive-t-il? Pour
pourquoi les gentils et les pécheurs font plus de chemin sur ma route? Pourquoi eux accueillent ce que je dis et les autres pas? Parce que les enfants d'Israël sont ancrés, ou plutôt sont incrustés comme des huîtres perlières sur le banc où elles sont nées. Parce qu'ils sont saturés, remplis, gonflés de leur sagesse et ne savent pas faire place à la mienne en rejetant le superflu pour accueillir le nécessaire. Les autres ne subissent pas cet esclavage. Ce sont de pauvres païens ou de pauvres pécheurs qu'aucune ancre ne maintient en place, semblables à des bateaux en dérive. Ce sont des pauvres qui n'ont pas de trésor à eux, mais seulement des fardeaux d'erreurs et de péchés. Ils s'en défont joyeusement dès qu'ils arrivent à comprendre ce qu'est la bonne nouvelle, et ils en goûtent le miel fortifiant, bien différent de la dégoûtante mixture de leurs péchés.